Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Guiz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une semaine d'angoisse, de recherche. Et hier après-midi, un corps a été retrouvé près de Florence, dans le Gers, où Liana, 11 ans, a disparu. Ce corps est probablement celui de cette collégienne. Et ce matin, les défaillances autour du principal suspect interrogent. Imaginez une montagne de cartons traversant l'Île-de-France chaque jour. C'est la conséquence de notre appétit pour les achats en ligne. 17 colis par habitant en moyenne en 2025. Premier match de préparation à la Coupe du Monde pour les Bleus et première défaite de Buzyn hier soir face à la Côte d'Ivoire.
C'est une issue tragique qui se dessine dans l'affaire Liana.
Une semaine après la disparition de cette collégienne de 11 ans dans le Gers, l'enquête a peut-être basculé hier après la découverte d'un corps. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Florence. C'est donc à une quinzaine de kilomètres de cette commune que ce corps a été retrouvé.
C'est ça, exactement, dans un silo aujourd'hui désaffecté dans lequel avait travaillé Jérôme Barella jusqu'en 2018 et qu'il connaissait donc parfaitement. Ce silo avait été fouillé, mais peut-être de façon imparfaite en milieu de semaine par les enquêteurs. Et ils y sont revenus hier après-midi sur une indication fournie par un témoin qui leur a dit où précisément le corps pourrait se trouver. C'est là qu'ils l'ont retrouvé, dans ce silo. Ils ont retrouvé le corps effectivement d'un enfant avec des vêtements qui ressemblaient exactement à ceux que portait Liana vendredi dernier. Des prélèvements ont été effectués quelques heures après par les hommes de la police scientifique, des prélèvements ADN pour savoir si c'est bien le corps de la petite fille, le corps de Liana. On devrait avoir des résultats de ces prélèvements dans les prochaines heures, certainement dans la journée. Une autopsie également est au programme pour les médecins légistes, pour bien sûr déterminer les causes de la mort et savoir surtout si la petite fille a subi des violences sexuelles.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Florence dans le Gers pour RMC. Les parents de Liana ont fait part hier de leur tristesse et de leur colère dans un communiqué. Le gouvernement, lui, reconnaît des dysfonctionnements, des alertes, des plaintes pour viol et agression sexuelle et pourtant aucune audition du principal suspect avant la disparition de Liana. Justement, une réunion est organisée ce matin à Matignon. Et Cyprien Pézeril du service politique d'RMC, le gouvernement veut comprendre comment ces avertissements ont pu rester sans effet.
Oui, Sébastien Lecornu a décidé hier soir de modifier son agenda. Il devait initialement présenter des mesures pour lutter contre le narcotrafic aujourd'hui. Annonce qui aurait été occultée par ce drame qui s'impose dans l'actualité, reconnaît un conseiller du gouvernement. Le Premier ministre a décidé à occuper l'espace. Il est sous pression. Ce drame aurait dû être évité, accuse le patron du Rassemblement National, Jordan Bardella. On a laissé un pédocriminel en liberté malgré les alertes, dénonce aussi la chef des écologistes, Marine Tondelier. Oui, il y a eu des dysfonctionnements dans le suivi du principal suspect, reconnaît le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
On a tout quoi s'interroger sur notre responsabilité collective. Pourquoi on met du temps à transmettre entre le parquet de Toulouse et le parquet d'Auch la suite de la plainte? Pourquoi, lorsque la procureure de la République demande de faire des actes d'enquête, manifestement, ils ne sont pas faits? C'est tout à fait inacceptable. Je prendrai des sanctions, je les proposerai, si je devais y en avoir, évidemment, ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Une enquête administrative est ouverte, elle sera publiée, mais bien après la réunion d'aujourd'hui, avec donc le risque qu'il soit difficile pour le Premier ministre de tirer dès maintenant des conclusions.
RMC 7h04, Martin Ney est condamné à la perpétuité. Ce tueur en série allemand a été reconnu coupable du meurtre de Jonathan Coulon, ce petit garçon de 10 ans tué alors qu'il était en classe de mer à Saint-Brévin-les-Bains. Martin Ney a donc été condamné à la perpétuité par la cour d'assises de Loire-Atlantique. Un immense soulagement pour les proches du jeune garçon, notamment son père, à la sortie de l'audience.
Enfin, justice a été rendue pour notre fils. Il va pouvoir reposer en paix. Ma famille va pouvoir faire son deuil. Nous allons pouvoir nous reconstruire. La justice a fait son travail. Nous avons eu confiance dans la cour. Nous tenons à remercier la cour d'assises, les jurés, les avocats de tous les partis pour le respect qu'il y a eu envers notre fils, notre famille. Ça s'est fait humblement, mais correctement, ce qu'on avait toujours demandé depuis tant d'années, qu'il n'y ait pas d'erreur. Le rapport humain était là. Et c'est ce qui compte aujourd'hui, c'est que le rapport humain a emporté sur la sauvagerie.
Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour violences sexuelles, ne remontera pas sur scène avant octobre. Le théâtre Édouard VII à Paris où est joué une pièce dans laquelle le chanteur détient un rôle. annule les 5 dernières représentations. À cela s'ajoute une série de concerts annulés cet été. RMC 7h05, un clic et un colis, multiplier l'opération par 315 millions. Voilà le bilan des livraisons en Île-de-France l'an dernier. 17 colis par francilien, chiffre révélé par une étude de l'Institut Paris Région. Justement, Rachel Sadonine, vous l'avez constaté dans les rues parisiennes.
Stationné en double file, un livreur s'empresse de remonter dans sa camionnette sans prendre le temps de répondre au micro car sa journée est
bien chargée, bien chargée.
Il redémarre au pas de course pendant qu'Andrea, elle, se balade tranquillement, colis sous le bras.
Je viens de le chercher en fait, c'est une petite robe d'été.
Ça vous arrive souvent de vous faire livrer des petites choses ?
Très très souvent, une dizaine de colis par mois. Ouais.
Et les points relais ont du mal à absorber tous ces colis. Rachid, gérant d'un service de courrier, reçoit jusqu'à 100 paquets par jour.
On est obligé de refuser des colis et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points qui ouvrent, beaucoup de gens aussi qui font ça en deuxième travail.
Dans son local rempli de colis du sol au plafond, Rachid l'affirme, 90% des emballages de paquets sont recyclables et selon lui, les entreprises de livraison essaient de plus en plus de limiter leur impact écologique.
Ils sont en train d'obliger les chauffeurs d'être en électrique.
Et vous voyez beaucoup de livreurs arriver en véhicule électrique.
Énormément, oui.
Selon l'Institut Paris Région, 2 véhicules sur 10 circulant sur les routes d'Île-de-France sont remplis de colis. Un chiffre qui illustre l'accélération spectaculaire des livraisons en région parisienne.
Ces montagnes de colis et ces routes qui sont donc encombrées de colis, on en parlera à 7h40. Le représentant des transporteurs sera en direct avec nous. Et puis si vous êtes vous-même livreur, vous êtes routier, appelez-nous, dites-nous si ça a véritablement changé les choses et si ça envahit les routes.
RMC 7h07, les Bleus débutent leur préparation à la Coupe du Monde par une défaite. Défaite hier soir de 2-1 contre la Côte d'Ivoire, un premier match raté. Mais Arthur Perrault, cela n'inquiète pas plus que ça, les joueurs de Didier Deschamps.
Oui, au coup de sifflet final hier soir à Nantes, le groupe France prend le temps de saluer le public comme si de rien n'était. Pourtant, la France concède sa première défaite depuis un an. Face aux médias, quelques minutes après, le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, ne cache pas son agacement.
Oui, évidemment, ça fait chier de perdre ce match-là, mais on va continuer à travailler. On a un deuxième match de préparation, je suis sûr qu'on sera encore meilleur et comme je l'ai dit, on sera prêt.
Cette défaite des Bleus est la première pour Didier Deschamps lors d'un match de préparation avant une grande compétition, mais le sélectionneur préfère relativiser.
La défaite est là, ça fait jamais plaisir. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Je ne voyais pas trop beau et je ne vais pas nous voir troller ou être dramatique. S'il y avait besoin d'une piqûre de rappel, on l'a eu.
Message reçu pour les joueurs français qui auront l'occasion de réagir dès lundi à Lille contre l'Irlande du Nord pour leur dernière répétition générale avant le grand départ pour la Coupe du Monde.
Et on aura droit aux demi-finales hommes à Roland-Garros. Le grand favori Zverev va affronter Mensik à 14h30. Et c'est à suivre sur RMC, la radio digitale 100% terre battue.
C'était le journal de Clément Gouit. Il est 7h08 sur RMC. Et c'est donc une profonde émotion qui s'est emparée du pays. Émotion, tristesse, colère aussi. Parce que le corps d'une enfant a donc été retrouvé hier dans le Gers. Et tout laisse à penser qu'il s'agit bien du corps de la petite Liana, 11 ans, qui avait disparu vendredi dernier. Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Anna.
Vous êtes l'ancien directeur de la police. La police judiciaire de Paris. L'affaire a pris une tournure également politique parce que l'on voit toutes ces plaintes qui s'étaient accumulées et qui n'avaient donné aucune conséquence. Le gouvernement reconnaît un dysfonctionnement autour du principal suspect. Maintenant, il va falloir obtenir des réponses. Voilà votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends, vous aussi, si vous voulez réagir, témoigner, n'hésitez pas. Le 32-16 vous est ouvert. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Ce corps retrouvé dans le Gers sur un site agricole que connaissait le principal suspect dans la disparition de la petite Liana, 11 ans. Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Anna.
Vous êtes l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Tout laisse à penser qu'il s'agit bien du corps de la collégienne. Tout d'abord, comment les enquêteurs en sont venus à ce silo-là et comment ils l'ont retrouvé ?
Alors, je n'ai pas de détails, bien sûr, sur l'enquête. Je pense qu'il y a ce qui était visible, ce que vous avez abondamment filmé. Et puis, il y a la véritable enquête, ce que la section de recherche entreprenait, qui permettait, sur la base de témoignages, sur la base d'éléments de police technique et scientifique, et sans doute, là, précisément, sur des données numériques. Les données numériques, on pense au téléphone, on pense à la voiture, permettaient de localiser particulièrement des points qui ensuite faisait l'objet de fouilles orientées.
Une autopsie est en cours pour identifier formellement le corps de cet enfant et essayer de déterminer les causes de la mort. Ça met combien de temps à être fait une autopsie comme ça ?
Autopsie, elle peut être faite, peut-être elle a été faite dans la nuit, suivant les... D'abord, il faut transporter le corps à un endroit, sans doute pas dans le département, mais peut-être dans des pôles un peu plus importants comme à Toulouse. Donc, l'autopsie est faite. Prélèvement ADN, mais même sans doute, compte tenu du peu de temps entre la disparition et la découverte, sans doute même visuellement, on peut avoir une certitude sur l'identification. La recherche des causes de la mort, la recherche des liens entre cette victime et le suspect qui est incarcéré, ça veut dire les prélèvements qu'on peut faire sur le corps, sous les ongles par exemple, qui permettraient d'avoir l'ADN du suspect, ce qui conforterait l'idée que c'est bien lui. Et deuxième point, pardonnez-moi, qu'on doit aussi, quand on est enquêteur, ne pas exclure, c'est une autre personne, un complice.
La question évidemment de tout cela, qui le corps parlera en quelque sorte, Christian Flesch, le suspect n'a rien dit. Depuis le début, il garde le silence.
Oui, mais ça c'est courant, c'est un droit qu'il a, qui a sans doute été rappelé par son avocat. Et c'est le principe français, c'est à l'accusation, en l'occurrence le parquet, puis maintenant un juge qui va examiner les charges qu'il y a contre lui, et il s'expliquera ou il ne s'expliquera pas, et il sera jugé sur la base des éléments qui ont été retrouvés.
Sommes-nous face à un scandale d'État, un scandale du dysfonctionnement? Le mot a été lâché par le ministre de la Justice, qui dit qu'il y aura des responsables, qui laisse entendre qu'il y aura des sanctions. Une défaillance majeure en chaîne, après des plaintes, les unes les autres, l'une contre une fillette de 7 ans, à qui on a dit, bah non, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés, la plainte a été classée sans suite, puis une plainte d'une fillette de 11 ans qui se plaignait de plusieurs viols. Elle a été examinée par les médecins qui ont constaté des lésions qui corroboraient son récit. Et puis, rien. Le suspect n'a pas été inquiété, n'a pas été entendu. Et puis, Liana, sommes-nous face à un scandale ?
Alors, bien sûr, il y a des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, ils font l'objet d'une enquête qui a été diligentée. C'est bien par à la fois le garde des Sceaux et par le ministre de l'Intérieur, qui a pour emploi la gendarmerie, parce que dans l'ensemble du fonctionnement de la chaîne judiciaire, j'y inclus aussi les services d'enquête, il y a ce qui ressort du structurel, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans la structure n'a pas fonctionné, de la faute personnelle éventuelle. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, parce que bien évidemment, quand en août 2025, les enquêteurs, le parquet de Toulouse, se retrouvent face à une plainte et que très vite, par l'accès à des fichiers, on peut s'apercevoir que la personne mise en cause est déjà connue pour avoir fait l'objet de plaintes classées sans suite ou de signalement. Bien sûr que là, ça doit mettre des feux
clignotants.
Et bien sûr, le traitement doit être accéléré.
Et ça n'a donc pas été le cas. Vous êtes nombreux à réagir. Nicolas, qui nous appelle de Leuville-sur-Orge, dans l'Essonne. La France entière est en état de très grande tristesse et d'émotion, mais aussi de stupéfaction. Nicolas, vous êtes chauffeur-livreur. Comment vous réagissez ce matin ?
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Moi, je réagis que j'appelle pas ça un dysfonctionnement. J'appelle ça de la complicité. Vous vous rendez compte qu'on est en train d'expliquer à cette pauvre famille qu'ont perdu leur fille. J'ai une fille du même âge. Qu'il y a eu un dysfonctionnement, mais c'est une honte de la part de la justice, de nos gouvernants. On parle d'une enfant, et c'est toujours pareil. C'est des pédocriminels qui ont le même profil, et on ne fait jamais rien. Et là, on explique aux familles un dysfonctionnement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une complicité. Ils sont complices.
Pour vous, il y a une forme de responsabilité.
Mais ils doivent être jugés au même titre que ce monsieur, je serais pas vulgaire, je suis à l'antenne, qu'au même titre que ce monsieur-là, ils doivent avoir la même sanction pénale.
Alors,
ils sont autant responsables que lui.
Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça provoque beaucoup, beaucoup de colère. On l'entend hein, depuis le début de la semaine. Vous êtes nombreux au fur et à mesure des jours où l'on découvrait l'ampleur, le nombre de plaintes, de signalements qui étaient restés lettres mortes. C'est effectivement la question de l'État a-t-il protégé ou n'a-t-il pas protégé ses enfants ? Est-ce que c'est un manque de moyens, Christian Flesch ? Est-ce que c'est une sorte de France de l'à-peu-près que l'on a sous les yeux ?
Alors, c'est clairement ce que l'inspection devra déterminer. Est-ce que c'est un manque de moyens ? Bien sûr, il y a des problèmes de moyens. Bien sûr qu'il peut toujours y avoir des moyens, mais déjà, faisons fonctionner ce qui existe. Il y a donc une plainte qui a été prise, en considération, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a eu des examens médicaux qui ont été faits, des examens psychologiques qui ont été faits, qui ont conforté l'idée que,
Cette petite fille avait bien été violée
en 2025 par une personne qui faisait l'objet, par l'accès au fichier, c'est très facile, qui faisait l'objet
d'une
déjà
précédente plainte deux ans plus tôt.
Même classée sans suite. Vous savez, on a l'habitude de dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Au bout de combien de plaintes il va falloir commencer? Donc derrière, il y a un traitement accéléré, ça veut dire transmission du dossier. Il semble que le dossier était sous forme papier, transmis par courrier.
La maman de la petite Rosa, celle qui a porté plainte en août dernier, elle a ces mots, elle dit, si la plainte de ma fille avait été prise au sérieux, sans doute Liana n'aurait jamais disparu. Et évidemment qu'on se dit tous cela.
Bien sûr.
On en est là aujourd'hui. La réunion politique à Matignon ce matin, est-ce qu'elle calmera la colère, le sentiment que la justice n'a pas été faite ou que la protection que l'on doit à nos enfants n'a pas été à la hauteur? Merci Christian Flech en tout cas d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Je vous rappelle qu'à 8h30, un face-à-face exceptionnel avec deux invités, le maire de Florence. Florence où était scolarisée Liana, qui s'exprimera et qui dira ce matin l'émotion de tous les habitants. Et puis la magistrate Béatrice Brugière, précisément sur cette question des dysfonctionnements. Et je suis d'accord avec vous, le mot dysfonctionnement paraît tristement faible. Sommes-nous face à un scandale? C'est évidemment la question que je lui poserai. Et surtout, comment faire pour que ça ne se renouvelle pas? Il est 7h19 sur RMC. Dans un instant, on va remonter le temps. Et ce matin, c'est avec vous, Paola Puirari. Bonjour Paola.
Bonjour Pauline.
Les congés payés, c'est leur anniversaire en 90 ans.
Oui, juin 1936, le Front populaire offre deux semaines de congés payés aux Français qui vont découvrir justement la mer et choquer la bourgeoisie.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes, il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21, RMC et RMC Story, 7h21, mais attention, on va remonter le temps 90 ans en arrière. Comme chaque matin, l'histoire éclaire notre actualité. Et ce matin, c'est avec vous, Paola Puirari. Bonjour Paola.
Bonjour Apolline.
On nous parlait et on vous parlait hier sur RMC de cette proposition de loi qui permettrait d'échanger la cinquième semaine de congés payés contre de l'argent. Les congés payés, ils fêtent leur 90e anniversaire ce mois-ci.
Et ce matin, Apolline, je vous emmène en juin 1936. La France est en ébullition. Le Front populaire vient de remporter les élections et dès le lendemain, il va se passer quelque chose d'inédit. Les ouvriers ne veulent plus rentrer dans les usines. Ils les occupent sous les yeux médusés des patrons. Ils en ont marre des cadences chronométrées du sifflet du contremaître. À l'époque, rendez-vous compte, ils travaillent quand même 6 jours sur 7 sans aucune vacance. Alors ils seront bientôt 2 millions dans la rue.
Les patrons vont finir par céder?
Oui, ils abdiquent. Le 7 juin, il y a 90 ans exactement ce dimanche, les accords de Matignon sont signés. Deux semaines de congés payés pour tous les salariés, des vacances pour tous, pour la première fois de l'histoire de France. Alors forcément, dans le pays, comme dirait Charles Trenet, il y a de la joie.
Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Et concrètement, alors ils partent où?
Alors je vais vous décevoir, Apolline, pas très très loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils enfourchent un vélo, plantent une tente sur un carré de terre battu. Le camping d'avant-guerre, ça se vit à la dure, près d'une rivière sauvage, mais c'est la liberté. Léo Lagrange, ministre des Loisirs. Oui, à l'époque, il y a un ministre des Loisirs crée plus tard un billet de train à 60% de réduction. 500 000 billets vont être vendus. Les Parisiens vont débarquer sur les côtes, découvrir la Normandie, la Bretagne pour prendre une bouffée d'air marin. Certains n'ont jamais vu la mer.
On imagine la tête effectivement de la bourgeoisie qui régnait seule sur ces plages de Normandie jusqu'alors.
Une tête épouvantable. Elle voit débarquer ce qu'une presse conservatrice surnomme avec tout le mépris du monde les prolos, les salopards en casquette. Et le choc est aussi vestimentaire. Les ouvriers arrivent avec des maillots de bain qui font pouffer de rire les aristos bronzés, des caleçons qui remontent jusqu'au nombril, des maillots de bain, une pièce très couvrant. Certains ne savent pas quoi faire de ce temps libre, alors ils s'assoient sur la plage et ils comprennent eh bien, qu'on peut aussi ne rien faire.
Les vacances viennent donc d'être inventées.
Et avec elles, la société des loisirs, les boules sur la place du village, la sieste sous le tilleul comme droit revendiqué, un droit presque révolutionnaire. Les sociologues résument ça en 3D. Délassement, divertissement, développement personnel, avouez qu'il y a pire comme programme. Et cette même année 1936, un chimiste met au point une huile pour bronzer sans brûler, l'ambre solaire, née exactement la même année que les congés payés, quitte à lézarder, autant ne pas revenir écarlate. Alors on va se quitter sur une image de cet été 36, et pour ça, rien de mieux que Jean Gabin.
Merci Paola Puirari pour cette remontée du temps, une chronique à retrouver en podcast ou sur le site et l'application RMC. Il est 7h24 et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint.
RMC,
De Manches Pirates, le face-à-face.
Et bonjour.
Bonjour. Bonjour Arnaud. Le face-à-face tout à l'heure, je recevrai non seulement le maire de Florence, mais aussi la magistrate Béatrice Brugère, qui va revenir bien sûr sur la disparition et l'affaire Liana.
Ouais, Paola, elle a eu les vacances comme sujet, c'était quand même plus sympa.
Ouais, c'est sûr.
Alors comme hier, on avait bien rigolé avec la chronique sur Dominique Rizet qui venait nous parler de l'affaire Liana, on s'est dit que c'était dommage de ne pas faire l'épisode 2.
Oui.
En fait, c'est comme les tuches. C'est pas parce que le premier épisode n'est pas drôle qu'on ne peut pas faire le suivant. Vous voulez pas que je vous parle d'un sujet un peu plus léger, comme la guerre en Ukraine, la guerre en Iran, la guerre à Gaza, qu'on se détende un peu, qu'on se relaxe. Alors, Béatrice Brugère est secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Ça m'a surpris. Parce que autant des ouvriers dans la métallurgie, la SNCF, les usines, on visualise, chez les magistrats, beaucoup moins.
Beaucoup moins, ouais.
Après, ils ont un petit marteau, les juges, donc quasiment dans le BTP. Elle sera donc là pour nous éclairer sur l'affaire Liana. Il y a un suspect. Et je pense qu'on a tous eu la même réaction en apprenant son identité sur les bandeaux des chaînes infos. C'était marqué « Le suspect J. Barella a déjà été mis en cause ». On a tous cru une demi-seconde que c'était Barella. Le choc. En plus, s'il avait eu besoin d'un alibi, il pouvait pas dire « j'étais au Parlement européen » parce que personne ne l'aurait cru, ça marche pas. Le gouvernement a annoncé « on va faire une enquête administrative sur les dysfonctionnements de la justice ». Déjà qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs. Mmh. Là, ils vont demander à des enquêteurs déjà en sous-effectif d'enquêter sur le manque d'effectifs des enquêteurs qui restent parce que eux enquêtent sur le fait que, comme ils sont occupés ailleurs, il y a moins d'enquêteurs.
Mille fois.
Voilà.
Une
donc
personne.
Je sens venir le moment où le cornu va nous annoncer un Grenelle du Beauvau, du Ségur de la justice, avec son supplément numéro vert, et ils vont mettre des mois pour accoucher d'un rapport du genre « L'affaire Liana a mis en lumière des dysfonctionnements qui ne doivent plus se reproduire. » Oh bah merci du renseignement, heureusement que t'es là. Et puis après, le Premier ministre laissera un post-it pour le prochain locataire de Matignon. « PS, la justice fonctionne pas, parce que la justice ne fonctionne pas dans ce pays. » Est-ce qu'on a essayé de débrancher et de rebrancher le garde des Sceaux? Est-ce que quelqu'un a essayé de mettre la justice dans du riz? C'est ça qu'il faut faire. Alors vous savez, moi je suis engagé sur cette cause. Des victimes, j'en connais. On se bat tous les jours avec elles. Hier, il y en a une qui m'a carrément dit « La justice, c'est comme le Père Noël. T'y crois jusqu'à ce que t'y crois plus. » Alors, si le gouvernement veut éviter de nouveaux dysfonctionnements, il peut m'appeler. Hein. Des dossiers mal gérés, j'en connais plein. J'en ai un du côté de Rennes qui est gratiné. On a bien rigolé, on a bien amusé. C'est bien ces petits rendez-vous pour se détendre. Allez, rendez-vous avec Béatrice Brugère à 8h30.
À 8h30 et d'ici là, toutes les dernières informations. C'était Arnaud de Manche, on le retrouve à 8h15. 7h26, c'est l'heure de jouer. Parce qu'aujourd'hui et tout le week-end sur RMC, vous remportez un album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 et 350 autocollants. C'est Manu le chiffre qui serait content.
Ah, moi aussi.
Je vais lui dire de jouer.
Moi aussi.
Allez, vous pouvez gagner cet album toutes les 30 minutes. Il y a un gagnant qui sera tiré au sort. Vous envoyez dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Restez bien avec nous. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Apolline, bonjour à toutes et à tous. Après une semaine de recherche pour retrouver Liana, 11 ans, un corps paraissant être celui de l'enfant découvert hier dans une exploitation agricole. Nantes, une nouvelle fois le théâtre d'une fusillade. Une personne a été tuée dans ses tirs imputés au narcotrafic. À Roland-Garros, place aux demi-finales hommes aujourd'hui. On viendra aussi sur la belle histoire de la Polonaise Maja Ralinska. Inconnue avant le début du tournoi, elle disputera demain sa première finale.
Le corps retrouvé hier dans le Gers est en cours d'identification.
Oui, s'il n'est pas encore certain qu'il s'agit de celui de Liana disparue depuis une semaine, de nombreux éléments laissent à penser que cela pourrait être le cas. Dans l'établissement où était scolarisée la fillette de 11 ans, les parents d'élèves n'ont aucun doute, ce corps est celui de Liana, Pierre Bourgès.
Comment vont-ils annoncer la nouvelle à leurs enfants? Voilà la question que se posent les parents au pied des marches du collège de Florence, alors même que certains d'entre eux peinent à retenir leurs larmes.
Oh, c'est triste, oui, surtout 11 ans quand même, avec des enfants comme ça.
C'est choquant et angoissant. On est choqués pour elle, pour cette petite, et on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à ses parents, ses proches, c'est tout de suite.
En sortant par la petite porte blanche de l'établissement, certains élèves ont déjà été informés de la découverte d'un corps qui pourrait être celui de Liana. Quelques-uns sont tête baissée, d'autres viennent chercher du réconfort dans les bras des surveillants. À côté de son enfant, cette maman a elle aussi mis du temps à réaliser.
Ça fait bizarre, on s'était tous dit, allez, on va la retrouver.
Désormais, elle veut savoir ce que son possible agresseur lui a fait.
Je me mets à la place de la maman. Je suis maman moi aussi et moi je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, surtout qu'est-ce qu'il n'a pas fait.
Ce matin, les élèves pourront aller en cours, mais il ne s'agira pas d'une journée normale, explique la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Le principal suspect dans cette affaire, c'est Jérôme Barella, père de famille de 41 ans, mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention. La mère d'une amie de Liana rapporte un témoignage surprenant recueilli par BFM TV. Le suspect a toqué à sa porte le soir de la disparition de la fillette. Écoutez.
Le jour de la disparition de Liana, le téléphone de mon conjoint sonne, on était juste à se mettre à table. Il me dit c'est Jérôme, je le rappellerai après. Et en fait, bon, il a insisté 2-3 fois je crois. Donc on finit de manger tranquille, on débarrasse tout, on se met ça. Et là, on entend toquer à la porte. Et là, il ouvre la fenêtre de la cuisine et il voit Jérôme. Et c'est là qu'il nous a dit, il y a une petite fille qui a disparu, Liana, est-ce que vous l'avez vue? Non, du tout. Du tout, ça ne nous dit rien du tout. Et de là, en fait, il est reparti après, il a dit ben, « je vais aller faire le tour pour voir si on la trouve par là ». Et voilà. Et après, depuis, plus de nouvelles, silence radio.
Jérôme Barella, déjà visé par plusieurs signalements et plaintes, notamment pour viol, n'a jamais été réellement inquiété par la justice, ce qui pose la question de la responsabilité de l'État dans cette affaire. Hier, le ministre de la Justice admettait que des défaillances avaient eu lieu. Gérald Darmanin qui se rendra à Matignon avec le ministre de l'Intérieur pour faire le point sur la situation dans cette affaire avec Sébastien Lecornu à Matignon. La réunion est prévue à 10h30. L'affaire Liana, on continuera d'en parler sur RMC à 8h30 dans le face à face avec Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière. Je vous le disais en titre, nouvelle fusillade à Nantes. Hier, un homme de 18 ans a perdu la vie. C'est la quatrième victime en moins d'un mois due au narcotrafic, selon le procureur de Nantes. Le journal Ouest France rapporte qu'un suspect d'une vingtaine d'années a été interpellé. Dans ce quartier du nord-est de Nantes, les habitants éprouvent une grande fatigue et une grande peur, Martin Lange.
Après la fusillade, Areski a vu les deux individus cagoulés prendre la fuite à moto. Une scène qui n'a plus rien d'exceptionnel pour lui.
J'ai l'habitude de voir ça.
Il voit des dealers au pied de son immeuble presque tous les jours.
Je rentre des fois à 2h du matin. Sincèrement, j'ai toujours la boule au ventre. Et surtout quand j'arrive ici, des fois je les trouve dans la cage d'escalier. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me sort de la cave. Franchement, j'ai peur.
Une situation insoutenable au point qu'il envisage de quitter le quartier. Nina, une voisine, n'a pas dormi chez elle après la fusillade.
Non, je ne me sens pas en sécurité.
Elle habite ici depuis 3 ans.
Ils tirent en pleine journée, en plus, c'est ça qui fait peur. Avant, ben, c'était la nuit au moins. C'est pas mieux non plus, remarque. Mais maintenant, en plein jour, ça veut dire qu'ils ont peur de personne.
Face à l'inquiétude des habitants, l'adjoint à la sécurité à la mairie de Nantes, Denis Taledec, a demandé des renforts de police dans le quartier de la Beautière. Mais selon lui, pour faire face au narcotrafic, il faut davantage de moyens.
Nantes est comme les autres villes touchées par ces phénomènes. Il faut mettre les moyens nécessaires à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne.
L'élu réclame notamment la création d'un service de renseignement dédié à la lutte contre le narcotrafic.
Philippine Boulet pour RMC. Jugement attendu au procès de Félix Binghi. Le tribunal correctionnel de Marseille rend son jugement aujourd'hui contre le narcotrafiquant chef présumé du clan Yoda qui opérait là sur les principaux points de deal marseillais. Il est jugé avec 19 autres personnes. Félix Binghi encourt jusqu'à 20 ans de prison. Direction Roland-Garros à présent avec cette belle histoire comme on les aime, celle de la Polonaise Maja Ralinska, issue des qualifications et quasiment inconnue au début du tournoi. Elle sera en finale demain face à Mira Andreeva à 24 ans. La Polonaise réalise un concours historique et vit un véritable conte de fées à Roland-Garros, Julien Taxis.
Oui, et le public du cours central l'a poussé jusqu'au bout de sa demi-finale. La folle épopée se poursuit pour la Polonaise qui a remporté son 9e match à Roland-Garros.
Après la balle de match, j'avais du mal à comprendre ce qu'il se passait. J'étais presque en état de choc. Je me sens comme dans une bulle. C'est difficile à expliquer, je suis juste super heureuse.
114e joueuse mondiale avant le tournoi, Maja Ralinska n'avait jusque-là gagné qu'un seul match en Grand Chelem. Son entraîneur Jaroslav Marowski a du mal à réaliser.
C'est un rêve, on a du mal à y croire. Après toutes les blessures et les problèmes qu'elle a connus, ce qu'elle accomplit est phénoménal. Pour la finale, qu'elle en profite, tout est possible.
Un parcours hors du commun et un jeu flamboyant pour Sarah Pitkowski. Consultante de tennis RMC, le public samedi sera derrière la Polonaise.
Un, son jeu est merveilleux parce qu'elle est capable de faire plein de choses avec la balle. Et puis je crois que
En France particulièrement, on adore les belles histoires.
Si elle s'impose en finale, Ralinska deviendra la deuxième joueuse à remporter un grand chelem en sortant des qualifications après la Britannique Emma Raducanu.
Du côté des hommes, cette fois à 14h30, se joue aujourd'hui la demi-finale entre l'Allemand Alexander Zverev. Il joue face au Tchèque Jakub Mencik.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes aujourd'hui.
Oui, début de la course à 20h15. Voici le pronostic de RMC. Le favori est le 4, Idol Jaillery. L'outsider est le 6, Evan Star. Le 4, le 6.
C'était le journal de Grégoire Morelli. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans la demi-heure qui vient, ne manquez pas à 8h50 le débat du vendredi. Qui est responsable des débordements après la victoire du PSG dans la nuit de samedi à dimanche? À qui la faute? Charles Consigny et Cécile Duflot en débattront à 8h50. Mais dans un instant, cette question en Ile-de-France. Un véhicule sur 5 transporte désormais des colis. C'est plus de 300 millions de colis qui ont été livrés l'an dernier. Bonjour Yannick Buissin. Vous représentez les transporteurs et ça entraîne des bouchons et ça entraîne de la pollution. Quelles conséquences de l'explosion du nombre de colis en France? Je vous pose la question dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est 315 millions de colis qui ont été distribués l'an dernier, rien qu'en région parisienne, et c'est un record. Bonjour Yannick Buissin. Vous êtes le vice-président de l'Union des entreprises et transports et logistiques en France. Aujourd'hui en Ile-de-France, un véhicule sur cinq qui circule transporte au moins un colis. C'est une bonne nouvelle ou c'est un risque de saturation pour vous?
C'est une tendance de l'économie et du mode de consommation des consommateurs que les entreprises de transport et logistique accompagnent. Donc c'est une transformation des modes de consommation et les entreprises investissent, s'organisent, modifient leur schéma de distribution pour répondre à cette demande.
C'est un changement évidemment de consommation. C'est un changement aussi pour vous, les transporteurs, pour les livreurs. On va tout de suite d'ailleurs accueillir Mathias qui nous appelle de Lyon. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Vous vous faites beaucoup livrer, vous?
Beaucoup.
Pour tout? Pourquoi?
Pour tout. Un exemple, je suis en formation. Là, j'habite à Lyon en ce moment, je suis en télétravail.
Ok.
Je suis en formation à Nanto. Non, non. En ce moment, je ne suis pas à Nanto, je suis à Lyon, physiquement.
Ok.
Il me manquait un shampoing, je l'ai commandé, je l'ai reçu le lendemain. Dans ce village, il n'y a rien. Il n'y a qu'une boulangerie qui fait bar en même temps. Moi, ça me va bien. Quand je vais dans un magasin, si je dois acheter un shampoing, j'achète d'autres articles. Donc, c'est pas la peine. La livraison ne me coûte rien parce que j'ai un abonnement spécifique. Je commande tout, sauf les fringues et le frais.
Voilà. Et sinon, le reste, tout, tout, tout. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que vous dites aussi sur le côté, du coup, j'ai pas de tentation. C'est-à-dire que je ne prends que ce dont j'ai besoin et je ne vais pas traîner dans les rayons à rajouter des trucs inutiles.
Non. Et puis, il y a un autre sujet, je pense que ça, il faudrait l'aborder un jour, c'est l'accueil que vous avez dans les magasins maintenant. Et je crois que c'est spécifique à la génération Z. J'ai 60 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé comme opticien en boutique, et je vois bien qu'il y a une différence d'accueil. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un autre sujet.
Ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous sentez en réalité, enfin c'est le même sujet, c'est-à-dire que la raison aussi pour laquelle vous n'allez pas l'acheter en magasin, c'est qu'au fond vous trouvez ça presque désagréable désormais l'expérience client dans un magasin.
Oui vraiment. Voilà. Et oui vraiment. Mais vraiment ça c'est un autre sujet qu'il faudrait peut-être l'aborder un jour.
C'est effectivement la question de l'accueil. Si vous-même vous avez travaillé en restauration étant plus jeune, effectivement cette question de l'accueil qui à vos yeux a changé. Je voudrais qu'Yannick Buissin puisse réagir à un point de ce que vous disiez tout de suite Mathias, c'est la question aussi de la ruralité, c'est-à-dire que là on a parlé du record en Ile-de-France. En Ile-de-France honnêtement il n'y a pas la question ou l'excuse de dire qu'il n'y a pas de magasin dans le coin, mais en ruralité, comme le disait à l'instant Mathias, il y a parfois des endroits où il faut faire plusieurs kilomètres et avec le prix de l'essence actuel pour aller acheter ne serait-ce qu'un shampoing. Est-ce que effectivement ce sont ces colis-là aussi qui ont transformé, y compris votre mode de travail, à vous les transporteurs, Yannick Buissin?
Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des solutions multiples qui sont mises en œuvre. La tendance de commande de e-commerce concerne l'ensemble du territoire et on voit qu'aujourd'hui on parle d'omnicanalité, c'est-à-dire que
ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire que le consommateur va vouloir, quand il passe devant un magasin, acheter quelque chose, commander, se faire livrer à la maison où il est en vacances et retrouver ses produits de l'ensemble de ses manières ou en drive. Et donc, bien sûr, tout ça influe les flux logistiques.
On parle souvent des grosses entreprises. Voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites nouvelles solutions ? C'est quoi les nouvelles solutions ?
Bah, en tout cas, vous avez vu qu'il y a beaucoup de points relais qui sont aussi un moyen d'optimiser ces livraisons, puisque vous avez à avoir 10, 20, 50, 100 colis qui vont arriver sur une boutique et puis le consommateur va venir le chercher. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de consignes, de retraits, qui sont aussi un moyen d'optimiser finalement ces derniers mètres, puisque vous allez aller remplir des casiers et le consommateur va passer devant cette consigne de retrait. Donc c'est des nouvelles solutions qui accompagnent la mutation de la consommation.
Un vrai changement de consommation, on l'a entendu dans la voix de Mathias et on l'entend avec vos chiffres. Yannick Buissin, merci d'avoir été en direct avec nous. Vice-président de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Je vous rappelle ce chiffre, 315 millions de colis distribués l'an dernier. Rien qu'en Île-de-France, c'est donc un record. Il est 7h46, c'est vendredi, c'est l'heure du débat. Cécile Duflo d'un côté, bonjour. Charles Consigny de l'autre. Je vous laisse évidemment imaginer qu'il y en a un de droite et une de gauche. Une majorité des Français estiment que le gouvernement est responsable des débordements après la victoire du PSG le week-end dernier dans la nuit et dans les rues de Paris. C'est un sondage Odoxa pour le Figaro qui a été dévoilé hier. Pour vous, à qui la faute ? Qui est responsable ? Vous en débattez ce matin dans un instant. Cécile Duflo et Charles Consigny et vous au 32-16, 7h46.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat du vendredi, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec la saison des festivals parisiens qui est lancée.
Avant Solidays ou Rock en scène plus tard, c'est le festival Wheel of Green qui démarre aujourd'hui au Bois de Vincennes avec, vous les avez reconnus, Gorillaz. Gorillaz pour la première des deux soldates françaises de leur tournée mondiale. Demain, la tête d'affiche, ce sera la Boss Lady, Théodora. Festival Wheel of Green qui fête ses 15 ans, mélange entre musique et engagement pour l'environnement. Alors je sais pas si on va parler du climat, mais on risque fort de parler de météo. Sur les réseaux, on voit des gens se préparer, acheter des bottes, de la pluie prévue, des averses aujourd'hui, demain c'est mieux, dimanche. C'est un running gag chaque année, la pluie à Wheel of Green. Côté programmation, ajoutons Charlotte Cardin ce week-end. Sébastien Tellier, Diziz, Oclou seront de la partie. J'ai regardé, il reste des places, 200€, le pass 3 jours. Vous y verrez même Feu Chatterton. Allez,
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h48, c'est vendredi, c'est le jour du débat droite-gauche. On va revenir sur les violences du week-end dernier après la victoire du PSG. Qui étaient les jeunes ? Qui sont les 890 personnes qui ont été interpellées ? Et qui est responsable ? Selon un sondage publié hier par le Figaro, 56% des Français jugent que c'est le gouvernement qui est responsable de ces débordements. Cécile Duflo, voix de gauche. Charles Consigny, voix de droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Français ? Est-ce que c'est un problème de consigne ? Est-ce que c'est un problème de maintien de l'ordre ? Est-ce que c'est un problème de gestion de tout cela, Cécile Duflo ?
Oui, alors je crois qu'effectivement les Français ont raison, c'est la responsabilité du gouvernement parce que la police et le maintien de l'ordre c'est une compétence nationale, mais je pense que peut-être on devrait s'interroger justement sur la manière d'organiser l'accueil de la fête dans ce genre de situation. Il y a plein d'expériences internationales et il y a aussi une histoire de la France qui montre que là, franchement, on a battu tous les records, 22 000 policiers mobilisés et ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on traite la foule festive comme une foule hostile, alors même qu'il peut y avoir dans cette foule quelques individus sur lesquels il faudrait se concentrer. Le problème, c'est que si on met toute la foule en situation de confrontation, on aboutit au désordre qu'on a connu.
Charles ?
Le gouvernement, non. Moi, je pense honnêtement que la cause de ces émeutes, puisque c'était quasiment des émeutes, c'est 30 ans d'immigration sans contrôle, 30 ans de laxisme, 30 ans de non-gestion du dossier des quartiers difficiles, et c'est ça qui aboutit à ce qu'on ait aujourd'hui une jeunesse en rupture de banc. Alors, je vois Cécile qui pousse une mine effarée.
Oui,
moi, c'est des dossiers que je connais bien, que j'ai traité comme avocat, où j'ai défendu très souvent des jeunes qui avaient ce profil. On peut l'appeler comme on veut, c'était des Kaira pour parler comme on parle aujourd'hui. Je suis désolé, très souvent, il y a un sujet sur les origines étrangères qui font que vous arrivez parfois avec c'est-à-dire que très souvent, ce sont des jeunes qui sont issus de l'immigration, avec le père qui est absent, la mère qui est toute seule, qui est débordée. Ça, je l'ai vu dans plein de cas, le père qui est absent. Pourquoi ? Parce qu'il est retourné au pays. Je ne vous dis pas que c'est la majorité des jeunes qui étaient là, mais moi, je l'ai vu très souvent dans les cas
de délinquance et de criminalité. C'est plus une question d'autorité que d'immigration, Charles ?
Oui, c'est un phénomène global, si vous voulez. Deuxièmement, il y a le phénomène géographique, qui est que ces gens habitent tous au même endroit. Alors ça, on peut dire que la responsabilité est collective, etc. Mais c'est une réalité. Quand vous grandissez dans ces cités, vous grandissez dans un environnement qui ne vous pousse pas vers autre chose que ce genre de truc. Et troisièmement, je suis désolé, moi je pense qu'il y a un laxisme. Je pense qu'il faut inverser maintenant la logique pénale, parce que je comprends que les Français soient effarés par ce type de scène. Je pense qu'ils n'en peuvent plus de ce déferlement de violence. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut une sévérité judiciaire particulière.
Cécile Duflot.
En fait, je pense que je suis un peu peinée par ce que dit Charles. D'abord parce que c'est évidemment fondamentalement nourri de racisme, et ça, c'est triste, parce que pour beaucoup de ces jeunes dont vous parlez, qui sont stigmatisés comme issus de l'immigration, certains, leurs parents sont nés en France. D'ailleurs, une partie d'entre eux, pardon, mais ils jouaient au PSG. C'est exactement la même histoire. D'abord, l'autre chose, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'on doit prendre le problème. Parce que sinon, en fait, on considère, et d'ailleurs on le fait sur d'autres sujets, qu'il y aurait une espèce de problème avec toute une jeunesse. Et à chaque fois qu'on a fait ça, et c'était en mai 68, et les jeunes, ils n'étaient pas issus de l'immigration, on a abouti à des erreurs de maintien de l'ordre. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que la paix civile, c'est important. Et qu'on doit pouvoir célébrer et être très heureux de la victoire. Moi, j'étais sur les Champs-Élysées le soir de la demi-finale de 1998. Il n'y avait pas un policier à l'horizon. Parce qu'on s'attendait pas, je pense, à l'époque, à une manifestation populaire. Et franchement, j'ai vécu un truc qui m'a beaucoup marqué, cette espèce de holà du bas des champs jusqu'en haut des champs.
Là, c'est les policiers qui ont créé les troubles.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, dans un moment où tout le monde a envie de simplifier les discours, maintenir l'ordre d'une foule, d'ailleurs des fêtes, des célébrations collectives, ça existe aux Pays-Bas, ça existe en Allemagne, ça existe dans d'autres pays. Et franchement, si on croit, en plus je le dis aux gens qui ont justement pas envie que ces scènes arrivent, pas envie que des bâtiments soient dégradés, en fait, il faut être intelligent. Essayer de regarder les gens qui travaillent sur cette question.
Non, mais
je suis très sérieuse.
C'est une inversion de la réalité qui est dingue.
Non,
c'est marrant d'ailleurs.
Non,
parce que
c'est pas une inversion de la réalité, c'est du professionnalisme.
Non,
parlez-en d'ailleurs aux professionnels du sujet.
L'idéologie déguisée en sérieux, moi ça ne me
compte
pas.
C'est la vôtre.
Moi ça ne me compte pas.
C'est la vôtre.
Moi je suis très basique.
Dire qu'on est, en fait, expliquer que le problème c'est les Noirs et les Arabes, ça suffit en fait. Ça suffit, c'est un truc, pour le coup, c'est un truc de Parisien qui ne comprend rien au pays.
De morale à deux balles.
Bah, c'est exactement
je me lève pas si tôt que ça le vendredi matin pour me prendre des leçons de morale idiotes. Excusez-moi. Moi, je vois ce que je vois sur les images. Je sais ce que j'ai vu. Encore une fois, comme avocat, je connais cette réalité de la racaillisation d'une partie de notre jeunesse. On peut prendre, moi j'ai envie justement qu'on s'attaque aux causes de ça. Alors la gauche qui commence à nous expliquer que c'est parce qu'il y avait des CRS qu'il y a eu des violences, parce que c'est ça qu'on entend depuis une semaine
non,
dans la bouche.
Non, c'est comment on gère le maintien de l'ordre. Je ne veux pas qu'on ne puisse pas discuter sérieusement des questions de maintien de l'ordre. Sérieusement.
Ça veut dire avec
des professionnels.
La cause, c'est une jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui est désœuvrée, qui est déscolarisée, qui est en rupture avec la société et qui verse effectivement dans la violence parce qu'elle n'a plus d'autre mode d'expression aujourd'hui. Alors, on peut s'interroger plus largement sur les causes. Moi, je vous dis que dans les causes, et je le maintiens, il y a effectivement l'immigration de masse qui fait que vous avez des gens qui arrivent et qui ne sont pas pris en charge, qui vivent dans la précarité. C'est vrai, ça se rejoint, toutes ces causes-là. Mais du coup, des jeunes qui sont dans la nature, vous avez le phénomène géographique, d'isolement géographique, vous avez le phénomène de la déscolarisation,
qu'ils se sentent rejetés.
Mais sans doute.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vais vous dire, attendez.
Est-ce qu'ils sont rejetés ?
Mais d'abord, qui est du racisme et qui soit rejeté ? Bah, il suffit d'écouter Charles Consigny. En fait, il y a des gens qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France.
Ça, c'est de la diffamation.
Il y a des gens qui sont nés en France, dont les parents sont nés en France, et qu'on ramène sans cesse, dans leur travail. Pardon, mais j'ai pris le RER avec eux ce matin.
Mais vous leur parlez pas.
Vous habitez où, Charles ? Moi, j'habite toujours. J'ai une chance dans ma vie qui s'appelle Villeneuve-Saint-Jean. Et cette chance de ma vie, ça m'a fait fait justement que je partage une grande partie de mes journées. Je vais faire des courses avec les gens dont vous parlez avec morgue et mépris. Mais bien sûr.
Vous les connaissez pas, vous les aidez pas là. Vous les enfoncez dans leur truc.
Mais en fait, moi, justement, en fait, je ne parle pas pour eux. J'essaye justement de parler pour le coup. On parle de maintien de l'ordre, des professionnels du maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, vous faites dériver le débat. Si, la question c'est comment on fait pour que quand il y a une victoire qui fait que des milliers de personnes ont envie de la célébrer, des milliers de personnes ont envie de la célébrer dans la rue, et d'ailleurs y compris des élus. Moi, ça me fait rire que Carl Olive ait été obligé de faire une vidéo pour se désavouer. Bah oui, quand on est content et dans les moments de fête, il se passe
Carl Olive qui a été brûlé des bagnoles sur les champs.
Mais en fait, quand vous faites la fête,
c'est pas lui qui a tiré au mortier sur des policiers. Elle tire au mortier sur des policiers quand elle fait la fête.
Je peux finir. Ça vous embarrasse en fait de ne pas pouvoir parler sérieusement du sujet. Si, de dire comment on fait pour que la fête puisse s'exprimer dans un cadre où les gens qui ont envie de faire la fête ensemble, souvent d'ailleurs, on est en France en buvant de l'alcool, c'est ce qui se passe aussi quand il y a des grandes férias, on sait gérer la foule, mais on ne sait plus là avoir des débats sur cette question qui soient des débats sérieux, de comment on fait techniquement. Et je pense que techniquement, le fait d'avoir une grande présence de Bleu Marine, ça favorise aussi le fait que des gens comme des activistes qui ont envie de conflit viennent. Ça, oui, c'est le cas.
Ah oui, là, il y avait des Black Blocs ce week-end.
Bah oui, ils sont même venus dire bonjour à Pauline.
Exactement.
Il y a eu le fameux Hugues, mais sinon, on les a vus, les images.
Il y en a certains, pour le coup, j'en connais certains qui adorent ça. J'étais à Vichy, j'ai vu
ça. Je vous laisse débattre tous les deux. La droite,
tout, ça fait 30 ans
la voix de droite et la voix de gauche. Et la voix de gauche, un débat, effectivement.
Jamais été ministre de l'Intérieur.
Aigu ce matin, vous les avez entendus, Cécile Duflo et Charles Consigny ce matin. Un vrai débat entre une voix de droite et une voix de gauche. Merci à tous les deux d'avoir débattu. Dans un instant, c'est le journal de 8 heures avec à la une ce corps d'une fillette retrouvée dans le Gers. Tout porte à croire qu'il s'agit bien du corps de la petite Liana. On y revient dès le début de ce journal. Et l'affaire, elle devient politique. Réunion ce matin à Matignon. Après les évidents dysfonctionnements, pour ne pas dire faillite, ce sera ensuite l'économie avec Emmanuel Le Chypre qui nous dira que le livret défense pour l'instant ne trouve pas son public. Il est 7h57. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
RMC, Apolline Matin.
Très belle journée à tous. Tout de suite, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous sommes en direct de Florence dès le début de ce journal où vous verrez que l'émotion est immense ce matin après la très probable découverte du corps de la jeune Liana, une semaine après sa disparition et avant une réunion ce matin à Matignon qui sera consacrée au dysfonctionnement judiciaire dans cette affaire. On va prendre des nouvelles des 22 Français à l'isolement depuis 3 semaines, souvenez-vous, pour avoir été cas contact de l'antavirus. L'isolement s'achève enfin pour eux. Et on prendra des nouvelles des Bleus aussi au lendemain de la défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire pour le premier match de préparation mondiale.
L'affaire Liana devient aussi une affaire politique.
Oui, au lendemain de la découverte très probable du corps de la jeune fille, on va y revenir, après les révélations sur le lourd passé judiciaire du suspect dont on a parlé toute la semaine, qui n'avait jamais été entendu pour la dernière plainte pour viol dont il faisait l'objet. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique et vous êtes en direct avec nous ce matin. Il y a donc le Premier ministre Sébastien Lecornu qui bouscule son agenda. Il devait faire des annonces ce matin sur le narcotrafic. Finalement, il convoque les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour une réunion qui aura lieu à 10h30 tout à l'heure. Cette affaire, on le voit bien, elle devient un sujet politique.
Oui, réunion convoquée en urgence hier soir au moment où l'on apprenait la découverte du corps. Le Premier ministre, il veut d'abord envoyer un signal ce matin, montrer que cette affaire est prise très au sérieux au plus haut niveau et que les ministres concernés vont devoir rendre des comptes. Simple point d'étape, dit-on à Matignon, car en réalité, il sera sans doute encore trop tôt pour tirer tous les enseignements. Gérald Darmanin et Laurent Nunez ont chacun déclenché une enquête administrative, mais ils n'en ont pas encore les conclusions. En attendant, il faut occuper l'espace, reconnaît un conseiller au gouvernement. Comprendre, ne pas laisser le terrain aux oppositions qui se déchaînent déjà contre l'institution judiciaire. L'État a lourdement failli, écrit Jordan Bardella. Le peuple français exige des comptes. Bruno Retailleau parle lui aussi de faillite du système judiciaire, incapable de gérer le sujet des violences sexistes et sexuelles, ajoute Marine Tondelier. Gérald Darmanin, qui a dirigé l'Intérieur avant la justice, se dit terrifié par ce dysfonctionnement révélateur, dit-il, de notre mauvaise organisation, et il évoque déjà de possibles sanctions contre des magistrats si des défaillances sont identifiées.
Le temps est au deuil et au recueillement. Voilà ce qu'écrivent dans un communiqué les parents de la jeune Liana. Bon, c'est très probablement son corps qui a été retrouvé hier
dans un silo agricole du Gers où avait travaillé le suspect, Jérôme Barella, à une quinzaine de kilomètres de Florence où vous êtes en direct ce matin. Pierre Bourgès, correspondant d'RMC dans le Sud-Ouest, c'est là qu'elle vivait, c'est là qu'elle allait à l'école. Vous êtes devant son collège ce matin et vous nous dites que tout le monde est bouleversé.
Moi, ici, les premiers élèves arrivent au collège et on peut voir que certains d'entre eux sont très touchés par les dernières nouvelles. Tous montent les escaliers pour entrer dans l'établissement tête baissée. Certains viennent chercher du réconfort dans les bras des surveillants qui les attendent à la porte depuis hier. Le personnel d'éducation du collège est lui aussi effondré, nous explique ce matin un membre du rectorat. Le choc s'étend même aux voisins du collège. Écoutez la tristesse de cette dame qui était devant l'établissement ce matin.
J'ai appris ça, j'étais juste... abasourdi, quoi, c'est... Il n'y a pas de mots, c'est terrible. Je pense à la petite, je pense à ses proches. Il est évident que tout ce qu'on voit aux informations, ça interroge, quoi. Quand on est parent, en fait, on ne peut pas entendre ça. C'est pas acceptable.
Vous l'avez compris ici, tout le monde est convaincu que le corps retrouvé hier est bien celui de Liana. Une autopsie et des analyses ADN sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien de la fillette. Une cellule psychologique est quant à elle en place encore aujourd'hui dans le collège pour soutenir ceux qui en ont besoin. Un temps d'hommage sera aussi observé dans la matinée.
Pierre Bourgès, donc en direct de Florence ce matin pour RMC. Et à l'heure où il y a donc ce débat sur le fonctionnement de la justice, ce matin, la contrôleure des lieux de privation de liberté alerte sur l'insécurité généralisée à la prison de Bordeaux-Gradignan. La surpopulation carcérale y est de 191%, c'est bien plus que la moyenne nationale. Dans des conditions gravement dégradées, dit-elle, il manque un surveillant sur quatre. Tiens, on reparle ce matin, comme on l'a fait depuis le début de la semaine, des violences de samedi dernier à Paris en marge du sacre du PSG. Sur les 572 gardes à vue, des mineurs en majorité, seulement 3 peines de prison ferme ont été prononcées, écrit ce matin le journal Le Figaro. Alors le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, affirme que les faits les plus graves, environ 80 dossiers, restent à juger. Le porte-parole de la chancellerie explique ce décalage là dans les chiffres par un écrémage dans les procédures, mais aussi par l'impossibilité de faire témoigner les CRS mobilisés qui viennent, dit-il, de toute la France et se dispersent rapidement après les manifestations. Alors il y en a qui viennent de passer un mois enfermés, si je puis dire, ce sont les cas contacts de l'antavirus. Vous sonnez forcément de l'apparition de ce virus sur un bateau de croisière, c'était le mois dernier. 22 Français avaient été désignés cas contact à ce moment-là, et pour éviter toute propagation, eh bien ça fait 3 semaines qu'ils sont à l'isolement, un isolement strict. C'est RMC qui vous a révélé cette information, Victor Girard, cet isolement s'arrêtera demain.
Oui, puisque comme toutes ces personnes présentes à bord de l'un des deux avions où se trouvait une néerlandaise décédée de l'antivirus ont de nouveau été testées négatives et que la durée maximale d'incubation du virus sera atteinte demain, elles vont donc pouvoir rentrer chez elles en lien avec les agences régionales de santé. 22 cas contacts de tout âge, dont 4 adolescents tous, isolés, sous surveillance renforcée depuis plusieurs semaines dans des hôpitaux à Bordeaux, Rennes ou encore Marseille. Le tout dans des conditions particulières, des chambres à pression négative, sans fenêtres, coupées de l'extérieur. Les cas contacts ont donc dû prendre leur mal en patience. Certains ont par exemple pu télétravailler. Quant aux 4 croisiéristes, leur fin de quarantaine se termine dans un peu plus de 2 semaines. La Française contaminée, elle, toujours en réanimation, dans un état stable.
C'est à se demander à quoi servent certaines lois ou certaines mesures qui sont prises parfois. La France était censée, écoutez bien, à partir de ce week-end, eh bien mettre en place un système de transparence salariale au nom de la lutte contre les inégalités. C'était une directive européenne adoptée par plusieurs pays, dont la France, adoptée il y a 3 ans. Eh bien ça y est, on y est 3 ans après. Alors en fait, Victor Joannin, on apprend que ça se fera pas. Dites-nous pourquoi.
C'est à cause de l'instabilité politique à Bruxelles comme en France, mais aussi parce que le patronat européen y est farouchement opposé. Ces nouvelles obligations compliquées à mettre en œuvre risquent de créer des conflits, explique Éric Chevet de la Confédération des PME.
C'est la crainte que les DRH ont, effectivement. C'est que tout ça crée des tensions dans l'entreprise. Un tel s'apercevant qu'une telle a X% d'écart et demandant des justifications et entraînant des situations ambiguës dans l'entreprise.
Les syndicats poussent pour que le texte de loi soit adopté au Parlement avant l'été, à l'image de la spécialiste du sujet à la CFDT, Béatrice Lestic.
C'est important parce que les écarts de rémunération structurelle entre les femmes et les hommes ne se réduisent plus ou à la marge, et qu'il va bien falloir prendre ce sujet à bras-le-corps, à travail de valeur égale. ça les régale.
Aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes parce qu'elles sont plus souvent à temps partiel et sur des fonctions moins bien payées. Mais à poste équivalent, l'écart reste de 4%.
Des nouvelles des Bleus de l'équipe de France de football qui ont perdu leur premier match amical de Buzyn contre la Côte d'Ivoire. C'était hier soir à Nantes où un hommage a été rendu à Didier Deschamps. On a vécu tout ça sur RMC. Valentin Jamin, les Bleus, ça y est, sont de retour à Clairefontaine.
Oui, à peine rentrés dans la nuit de Nantes, les Bleus retrouvent l'entraînement dès cet après-midi à Clairefontaine, après avoir pris la traditionnelle photo officielle de l'équipe. Didier Deschamps et son staff seront attentifs aux états de forme, alors que certains étaient sur le terrain hier après plus de deux semaines sans jouer, avec une attention particulière pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les deux champions d'Europe parisiens, titulaires samedi dernier en finale, sont les seuls joueurs de champ à ne pas être entrés, avec William Saliba, le défenseur d'Arsenal, gêné au dos. Ces trois-là sont espérés en forme lundi soir contre l'Irlande du Nord avec trois entraînements de plus dans les jambes. Deschamps devrait alors aligner un 11 qui se rapproche un peu plus de son équipe type pour espérer une victoire et décoller en direction de Boston plus sereinement mercredi prochain à 6 jours d'entrée en lice contre le Sénégal.
Bon, et puis c'est la journée des demi-finales hommes à Roland-Garros, l'Allemand Zverev contre le Tchèque Mensik, puis le duel entre les Italiens Arnaldi et Coboli qu'on verra cet après-midi sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h09 lors de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Les Français sont réticents pour l'instant à placer leur épargne dans le secteur de l'armement.
Oui, vous vous rappelez du fonds de 450 millions d'euros lancé par la Banque publique d'investissement BPI France en mars 2025. C'était destiné à permettre aux Français de financer le secteur de la défense dont on visait évidemment la montée en puissance pour faire face aux périls internationaux. Eh bien, ça a démarré doucement, hein, un peu plus d'un an après le démarrage, ce fonds n'a collecté que moins de 100 millions d'euros. Pourtant, le ticket d'entrée est raisonnable, 500 euros. La défense est un des secteurs les plus en croissance. La France a beaucoup de champions mondiaux dans le secteur. On rappelle qu'on est le deuxième exportateur mondial d'armement. Donc tout ça rapportera avec une quasi-certitude 3 à 4 fois plus que le livret A. Et pourtant, les Français ne semblent pas particulièrement attirés par ces gains.
Pourquoi ils hésitent ?
Eh bien, on a une grande partie de la réponse avec le dernier baromètre de l'épargne, IFOP Alta Profit. 70% des Français ne veulent pas investir dans la défense, en grande partie pour des raisons politiques, éthiques ou morales. Et ils considèrent que le financement de ce secteur doit uniquement relever de l'État et des impôts. Et c'est une proportion qui n'a pas bougé depuis le baromètre de l'an dernier, malgré le déclenchement de la guerre en Iran. La conclusion, c'est que les Français sont pacifistes. Ils veulent que leurs économies soient placées dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs. Ils préfèrent l'assurance vie et pas les risques. C'est un peu comme si, finalement, les Français avançaient sous les bombes avec une marguerite entre les dents, ma chère.
Votre conclusion est inouïe. Il y a peut-être aussi qu'ils ne le savent pas très bien, en fait, qu'il existe. Moi, je trouve que c'est pas du tout. On en a très peu parlé. Il y a peut-être aussi une partie
de cette explication-là.
Moi, je trouve que parfois, on cherche des explications. Et il y a peut-être un problème d'information. Les chiffres du jour, comme chaque jour. Alors, ça monte ou ça descend?
Le gazole, on est au plus bas depuis 2 mois. 2,03 € le litre. Le sans-plomb, 95, 1,97. Au plus bas, lui, depuis un mois et demi. Pétrole et gaz, stable depuis le début de la semaine. 95 dollars le baril, 48 euros.
8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demanche arrive avec ses blagues à 8h30. Deux invités pour le face-à-face. Le maire de Florence, dans le Gers, c'est là où Liana a été scolarisée. C'est là qu'elle a été voir la dernière fois. Il dira toute son émotion et l'émotion de tout un village et de tout un territoire. Et puis, nous serons aussi avec la magistrate représentante du syndicat Unité FO, Béatrice Brugière. La justice, l'État a-t-il failli lorsque l'on voit effectivement les étapes qui n'ont pas été prises au sérieux dans la ce qui aurait pu conduire à la condamnation du suspect. Et puis on poursuivra aussi notre page spéciale Coupe du Monde. Ne manquez pas à 8h50, notre envoyé spécial RMC aux États-Unis. Il est à la frontière avec le Mexique ce matin, vous l'entendrez, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
tous les jours de manche.
Et bonjour.
Et bonjour, 8h15.
Oui, on chahutait un peu avec Géraldine, on parlait de gens à poil, parce qu'on aime bien parler de gens à poil pendant la pause.
Ça,
oui,
oui, mais
c'était off, c'était du off. D'accord. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette chronique, Apolline, je voulais revenir sur celle d'hier, parce que j'ai reçu du courrier suite à mes propos sur Thomas Pesquet. On m'a écrit, t'es jaloux. Eh ben oui, tout à fait. Voilà, parce que cet homme a tout, il est grand, fort, beau, intelligent. Nous, à côté, on est des singes. Donc évidemment, on complexe. Vous avez vu qu'il a annoncé qu'il allait marcher sur la Lune. Voilà, nous, on galère à faire le plein. Et lui, il se dit, tiens, si j'allais faire un petit tour sur la Lune, 500 000 km dans une fusée qui consomme 12 000 litres pour faire 500 mètres, le gazole est à 2,50€. Il va nous cramer 15 milliards pour aller faire un selfie avec un cratère et un solo de saxophone en apesanteur. Et nous, on sera devant notre télé avec nos femmes qui disent « Ah, oh, quel homme, il est extraordinaire !» Thomas Pesquet, il veut marcher sur la Lune. Nous, on se dit que ce serait déjà bien de trouver 5 minutes pour aller marcher sur un tapis roulant chez Basic Fit. Pour pas avoir le cul d'un éléphant sur la plage cet été. Bon, ceci dit, on aura tous le même. Hein, vu que personne se motive pour le perdre, on sera tous des éléphants qui font semblant de rien voir au sujet des autres. À propos d'éléphants qui voient rien, oui. La France affrontait les éléphants ivoiriens hier en football.
Très belle transition, magnifique.
Parce que vous vous disiez, mais il n'y a pas de chute dans son paragraphe d'avant, mais il y avait une transition qui était atomique, tout ça est au cordeau. Alors bref, les Bleus ont perdu contre la Côte d'Ivoire hier 2-1. Et très peu de dégâts sur les Champs-Élysées. Oui. Faut le dire aussi. Je les trouve même plus propres qu'hier. Hein, quand ils sont contents, les supporters, ils cassent. Quand ils sont pas contents, ils réparent, ils nettoient. Si on perd la Coupe du Monde 9-0 contre le Sénégal en phase de groupe, on va se réveiller, la scène sera propre. Ça va être
nickel.
Nickel. Un match un peu spécial puisque Désiré Doué a affronté son frère, Guéla Doué. Donc il y avait les Doués sur le terrain en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu les sous-doués sur le terrain. Tous les remplaçants français qui se sont pris une peignée, bon, c'est dommage. Et finissons avec le sport. Cette semaine, c'était aussi le début des finales de la NBA, le basketball américain. Les Spurs de San Antonio ont perdu contre les New York Knicks qui ont éliminé successivement les Big Tits de Cincinnati, les Cougar Lovers de Detroit, les Butthole Lickers de Minneapolis et l'équipe fétiche de Mathieu Béliard, les Horny Grannies de Buffalo. Qui ont fait une bonne saison hein, contre les Tremendous Cocks de Dallas. Le basket, moi j'ai jamais accroché, il faut mesurer 2m24 pour avoir le droit de jouer.
Par contre l'anglais...
L'anglais j'aime bien. C'est chaud 2m24 pour jouer. Est-ce que ce serait pas plus simple d'interdire aux gens de plus de 2 mètres de participer, de mettre les paniers plus bas?
Mais oui, mais moi,
ce serait plus accessible quand même.
Complètement
d'accord. Il n'y a pas de sport réservé aux nains, par exemple. Enfin, si, il y a Fort Boyard, mais bon, enfin, en fait, bref, tout le monde ne peut pas participer.
Le pape Léon XIV se rendra en France en septembre.
Oui, on n'en a pas encore parlé, mais le Saint-Père rencontrera Emmanuel Macron.
Et alors là, vous voyez, Saint-Père, c'est Notre-Dame. C'est moi qui l'ai reconstruite en 5 ans. Depuis, je suis très populaire auprès des Français. Hein. Je suis un peu leur Jésus. Ils vous vénèrent? Non, ils veulent me crucifier.
Je suis sûr que cette visite du pape en France, c'est juste une excuse pour lui pour aller voir Céline Dion. C'est Macron va lui dire « Votre sainteté, j'ai organisé un dîner à Versailles, ce soir rien que pour vous. Oh Emmanuel, désolé, je suis un peu souffrant, je vais aller me reposer. » Et le soir même, il sera à la Défense au premier rang. Céline, on t'aime ! Jésus, on s'en fout ! Céline, épouse-moi !
Je cherche ton cœur !
D'ailleurs, vous avez vu, Céline Dion annonce 10 nouveaux concerts à la Défense Arena. Il y a des concerts en cascade, bon, c'est normal, hein, il y a des salles qui se libèrent avec les annulations de Patrick Bruel. Avec toutes les salles, elle va pouvoir s'en rajouter une bonne centaine. Alors les places sont chères. À ce prix-là, j'espère qu'il y aura des guests, qu'on aura au moins Carla Bruni. C'est pas la même puissance vocale. Quand tu penses qu'elle a pas chanté pendant 10 ans Céline Dion parce qu'elle était malade, je sais pas ce qu'ils ont trouvé comme traitement depuis, mais ça marche hein. Faut en mettre dans les Red Bull. Elle avait le syndrome de la personne raide, du coup elle donnait plus de concerts. C'est l'inverse de Bruel. Quand il l'avait, le syndrome de la personne raide, il en a donné des concerts. C'est depuis qu'il a été diagnostiqué qu'il arrête sa carrière. C'est fou la médecine. Ça va comme ça, d'un patient à l'autre, ça varie. Allez, bon week-end.
Bon week-end. Merci beaucoup Arnaud. Il est 8h19 avant le face-à-face. Je voudrais qu'on prenne Odette au téléphone qui nous appelle du Nord. Bonjour Odette.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Odette, comment ça va? Vous avez 65 ans, vous l'avez dit, donc je me permets de le dire. Je crois que vous êtes à la retraite et vous commandez beaucoup en ligne. Vous vouliez réagir à ce chiffre. Le nombre record de colis, de petits colis, de colis en tout genre qui désormais sont sur les routes de France.
Alors, je commande moyennement, mais on est bien obligé puisque les magasins dans les centres-villes ferment. Donc, il faut faire de plus en plus de kilomètres.
Vous avez les magasins qui ont fermé à côté de chez vous?
Oui.
Vous ne pouvez plus faire vos courses à pied.
Une moyenne, c'est à Douai, donc il y avait des magasins d'habillement principalement,
oui,
qui ont fermé, donc on est obligé d'aller plus loin. On est obligé d'aller à Noyelles-Godault maintenant, dans un grand centre commercial.
Et donc plutôt que d'aller jusque là-bas, vous préférez parfois commander.
Commander, voilà, c'est ça.
Pour l'habillement, pourquoi? Pour le reste, pour tout?
Pour l'habillement, après j'achète des fois des livres sur le diabète, mais la dame n'est éditée que dans une grande plateforme, donc on est obligé de commander aussi.
D'accord. Donc ça, par exemple, c'est des livres que vous trouveriez pas, effectivement, qui seraient introuvables ailleurs.
Voilà, c'est ça. Oui, parce que la dame n'est éditée que dans une plateforme.
D'accord. Mais ça veut dire, Odette, qu'au fond, ça vous évite aussi d'avoir à sortir de chez vous, ou est-ce que vous auriez préféré dans l'absolu? Parce qu'on avait tout à l'heure un auditeur, Mathias, qui nous disait aussi, il faut quand même voir que dans les magasins, les gens sont à peine aimables désormais. Et donc, ça faisait aussi partie. Il disait, moi, du coup, je culpabilise pas d'acheter sur Internet. Odette, est-ce que vous regrettez, vous, les magasins avec les vendeurs?
Oui, pour l'habillement, c'est mieux. En plus, on essaye, on voit plus d'affaires.
Donc maintenant, vous avez pris vos habitudes sur Internet.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Bon, écoutez, merci Odette. C'est sympa de vous entendre. Je crois que c'est la première fois que je vous accueille, Odette, au téléphone.
Oui, c'est bien la première fois.
Eh ben, soyez la bienvenue. J'imagine que vous écoutiez dans l'ombre, sans le dire. Mais ça y est, maintenant, vous avez franchi le cap du 32-16.
Bon, allumez la lumière.
Merci, Odette. Revenez quand vous voulez. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le face-à-face, on va évidemment revenir sur ce drame, le corps d'une enfant habillée selon des habits qui correspondent vraisemblablement à ceux de Liana. Et on reviendra là-dessus avec d'abord le maire de Florence dans le Gers, c'est là où Liana a été scolarisée et où elle avait été vue pour la dernière fois. Le maire de Florence dira toute l'émotion et la colère, il faut bien le dire, de toute une ville et de toute une population. Béatrice Brugière sera ensuite mon invitée. Elle est magistrate. Faut-il parler de faillite, voire même de scandale de la justice et des enquêtes? Je lui pose la question dans un instant. Le face-à-face sur RMC BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV, deux invités ce matin. Après l'immense émotion et peut-être même la colère qui est en train de s'installer dans le pays après la découverte du corps de cette fillette hier, dans ce studio, Béatrice Brugière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. La question que je vous poserai évidemment dans un instant, c'est celle des défaillances dont parle le ministre de la Justice. Est-ce qu'il s'agit de défaillances? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable faillite, voire même d'un scandale d'État, à ne pas avoir su protéger cet enfant, ces enfants, devrais-je dire, puisque de nombreuses plaintes avaient déjà été déposées contre le principal suspect. Mais je voudrais d'abord qu'on parte à Florence, puisque mon autre invité, c'est vous, Grégory Bobato. Bonjour. Vous êtes le maire de Florence.
Bonjour.
Florence, où Liana a été scolarisée, là où elle avait été vue la dernière fois, vendredi dernier, il y a tout pile une semaine. Comment vous vivez tout cela ce matin? Comment vous administrez, comment la ville de Florence dit sa peine ce matin?
Et on se réveille ce matin, pour ceux qui ont pu dormir, de façon meurtrie, évidemment. J'ai pris la parole hier soir pour lancer un appel à la dignité, et je réitère cela ce matin parce qu'on a une famille qui est dans le deuil, et je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. Il ne faut pas, même si on parle déjà de ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé, oublier que la famille est dans le deuil. Et donc moi, toutes mes pensées vont à la famille ce matin. Vous savez, hier soir, j'ai pris la parole à 20h en me posant une question, savoir si c'était mon rôle. Si c'était le rôle du maire de la ville de prendre la parole à 20h sur tous les médias nationaux pour pallier à ce besoin d'humanité, ce devoir d'humanité qu'on ressentait dans la population et que j'ai ressenti au plus près des Florentins, pour avoir une parole humaine qui dise deux mots de compassion et de dignité à l'égard de la famille. Et écoutez, je l'ai fait parce que suite à un communiqué technique et un silence assourdissant des autorités, je pensais qu'il fallait humainement dire ce mot en direction de la famille. Et c'est ce matin, je réitère ça en avant-propos.
Monsieur le maire, quand vous dites ça, ça veut dire qu'effectivement, on entend chez vous qu'il y a un manque, qu'il y a eu un manque de parole, qu'il y a eu un manque même d'appel. Est-ce que vous-même, alors que depuis plusieurs jours, vous découvrez l'ampleur des peines qui n'ont pas été suffisamment prises au sérieux, cette fameuse phrase prononcée par la mère de Rosa, la petite fille qui a porté plainte pour viol contre le suspect numéro 1, elle a porté plainte pour viol en août dernier, depuis rien, et elle dit si la plainte avait été prise au sérieux, peut-être que la petite Liana n'aurait jamais disparu. C'est face à cela que vous dites qu'il faut garder la dignité. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est la colère qui l'emporterait ?
Bien sûr, il faut se garder de toute colère et il faut garder la dignité. Parce que vous savez, ce système est dénoncé par tous. Il est dénoncé par tous depuis longtemps et encore plus ces dernières années, encore plus ces derniers mois. Et alors là, évidemment, à l'aune de ce que l'on vient de vivre à Florence, évidemment, on ne peut que réagir. Il a été dénoncé par la voie législative, puisque en plus, pour illustrer cela, notre propre député du Gers, David Topiak, vous regarderez, mais en août 2025, dénoncé ça lors d'une question au gouvernement pour alerter sur le dysfonctionnement du tribunal d'Auch et particulièrement pour au niveau de la protection des enfants. Donc c'était août 2025, la question de Monsieur Topiak. On a une dénonciation associative qui se fait. On a entendu Move Enfant sur votre chaîne. On a pu lire France Victime dans Le Monde qui expliquait cette nécessité de faire quelque chose. Et puis évidemment par les victimes elles-mêmes. Vous parliez de cette maman qui s'est exprimée chez vous. Mais comment vous dire? Le seul vrai courage aujourd'hui, moi, si je peux m'exprimer ainsi, ce n'est pas le mien de vous parler ce matin. Vous savez, je me suis longtemps demandé si c'était ma place de prendre la parole ici. Je le fais parce que je fais mon devoir de maire. Le seul vrai courage, ce n'est pas de vous parler ce matin, ce n'est pas le vôtre de me poser des questions, ce n'est pas de savoir ce qui a été fait ou pas fait ou qui a manqué. Le vrai courage dont on parle aujourd'hui, c'est le courage des victimes, c'est le courage des enfants, c'est le courage qu'il faut à ces enfants pour pouvoir aller pousser une porte de gendarmerie, accompagner leurs parents. C'est le courage des enfants qui doivent surmonter leur honte, qui doivent surmonter leur terreur pour y aller. Et doit-on rappeler, peut-être, qu'un enfant est humain avant d'être adulte et que c'est à nous, adultes, de protéger les enfants. Quand on voit que déjà en 2023, le CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, préconisait tout un tas de choses, je crois qu'à 80 et quelques points. Et où en est-on en 2026 ? C'était en 2023. La question du député, c'était en 2025. Voilà les vraies questions. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucune polémique à avoir. Simplement, on pose les faits sur la table et on dit où on a failli. Voilà. Et je ne suis pas là pour vous dire que quelque chose a dysfonctionné au niveau départemental. C'est pas au niveau départemental, c'est pas au niveau régional, mais c'est bien au niveau national qu'il faut
cette prise de conscience. Est-ce que ça veut dire, monsieur le maire, ce matin ?
Je crois qu'il faut aller au bout.
Est-ce que ça veut dire ce matin, monsieur le maire, que, à vos yeux, c'est pas un dysfonctionnement de la justice ou un dysfonctionnement de la police ou un dysfonctionnement d'une collectivité, que c'est un dysfonctionnement de la France ?
Eh bien oui, je crois que c'est un vrai dysfonctionnement de l'État, de la France, dont il s'agit, puisque, comment vous dire, je peux illustrer ça en vous parlant de la solitude des élus, simplement. Qui, vous savez, les maires, c'est le premier maillon de la chaîne. Les maires, c'est les gens, c'est le peuple, c'est leur premier représentant, c'est celui qui est en contact en permanence avec la population française. Et l'État, ce sont les personnes qui sont plus haut. Et ce sont les législateurs, ce sont l'ensemble des ministres, ce sont toutes les personnes qui nous administrent et qui nous gouvernent. Et à un moment donné, on ne peut plus se contenter d'avoir des réponses partielles, des réponses étouffées, parce que tel ou tel considère que ce n'est pas sa place de prendre la parole, parce qu'il pense qu'humainement, il ferait un faux pas. Eh bien écoutez, je suis là devant vous, parce que humainement, je pense qu'il est de mon devoir de dire ces choses-là sans aucune haine, sans aucune colère, mais simplement avec toute l'humanité qui peut caractériser la fonction que j'exerce, celle de maire.
Merci beaucoup, merci Grégory Beaubateau. Vous êtes le maire de Florence. Allez-y.
Oui, voilà. Moi, je pense, vous savez que si nous n'avions pas, avec mon équipe municipale, pris le taureau par les cornes il y a quelques jours, nous serions restés seuls. Nous serions restés seuls, sans coup de fil. Et vous savez,
parce que personne ne vous avait appelé spontanément. Vous n'aviez reçu aucun appel, monsieur le maire. On sent aussi que vous vous dites au fond que vous étiez livré à vous-même.
Mais bien sûr, la seule proximité que nous avions, c'est les formidables enquêteurs, la gendarmerie qui a fait un travail formidable auprès de nous, qui a été là au jour le jour, qui a fait son travail sur un territoire qui est extrêmement difficile, extrêmement ardu en recherche. On est dans le rural, vous savez, donc on n'est pas dans des zones faciles. Et la gendarmerie a été là. Effectivement, alors écoutez. Que vous dire, si mon téléphone a sonné hier soir à 20h07, avec à l'autre bout du fil le cabinet de la présidence, et enfin, j'ai envie de dire enfin, des mots qui m'ont semblé à la hauteur de la situation. Mais six jours après, six jours de silence, donc effectivement...
Merci beaucoup. Merci Grégory Beaubateau, donc maire de Florence, de nous avoir partagé effectivement cette réaction à la fois en tant que maire, mais on l'entend bien presque même en tant que citoyen français. Béatrice Brugère est avec nous dans ce studio, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Votre dernier livre, c'est Les juges ont-ils vraiment tous les droits? Mais la question évidemment que je vous pose ce matin, c'est les mots qui ont été utilisés. Le ministre de la Justice dit il y a eu dysfonctionnement. Quand on le regarde, la chronologie des plaintes et des signalements qui se sont accumulés à l'encontre du suspect Jérôme Badella, qui se retrouve aujourd'hui comme le suspect numéro 1, après avoir été, et les mots du maire étaient très forts quand il dit le courage de ces enfants qui ont été dénoncés, qui ont pris le temps d'aller porter plainte. Il y en a eu au moins une, 7 ans en 2022, classée sans suite. Il y en a eu une autre en août 2025. Elle a eu rendez-vous avec les médecins qui ont constater dans son corps les stigmates, disant qu'elle ne disait pas faux, qu'effectivement les lésions qu'elle présentait coïncidaient avec son récit de viol. C'était le 11 septembre dernier et Jérôme Barella n'avait toujours pas été interrogé.
Oui, merci beaucoup de votre invitation. Tout d'abord, je voudrais avoir un mot pour cette famille, parce que
évidemment,
ce qui vient d'être dit est très juste par ce maire. D'abord, c'est le temps du deuil aujourd'hui. Le temps des responsabilités viendra. Le temps des explications complètes viendront aussi. Aujourd'hui, ce temps, il appartient à cette famille. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour ce qui leur arrive, parce que c'est tragique. On va aller droit au but, c'est un échec. C'est un échec collectif, c'est sûr. Il y a des enquêtes administratives en cours qui verront s'il y a eu des responsabilités individuelles. Je ne suis pas du tout la personne en charge de ça et c'est pas de ma responsabilité de parler de ça aujourd'hui. Mais on va pas se cacher, c'est un échec collectif puisque des responsabilités, on verra, puisque la personne actuellement donc. Qui est pas encore mis en examen d'ailleurs, mais qui, je ne sais plus,
Jérôme Barella,
qui en tout cas présumé coupable, en vrai était déjà dans nos radars. Il y avait déjà eu des signalements. Donc il va falloir démêler
décembre
exactement.
2017, le renseignement judiciaire établi par la gendarmerie, une femme vient signaler que sa fille a une relation inappropriée avec un homme, Jérôme Barella. Janvier 2024, une procédure le mettant en cause après une plainte pour viol sur une fillette de 7 ans est finalement classée sans suite car insuffisamment caractérisée. Août 2025, le 22 août, dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Elle avait 11 ans, qui dénonce des faits de viol. Elle est, je le disais, soumise à un examen médico-légal qui, en effet, corrobore ses dires et dit qu'elle a vraisemblablement été violée. Le 31 mai 2026, on a à nouveau le récit qu'un signalement a été fait à l'aide sociale à l'enfance d'une jeune fille à l'encontre de ce même Jérôme Morella.
Et sans doute d'autres choses vont arriver.
Que fallait-il de plus?
Alors moi, ce que je peux dire, en tout cas ce matin, c'est qu'on est sans doute sur des dysfonctionnements, et ça a été très bien dit par le maire avant, qui sont systémiques. Nous avons un problème en France sur la protection de l'enfance. Il va falloir que ça devienne un enjeu premier, un enjeu national. Nous avons en ce moment une commission d'enquête, vous savez, sur l'inceste, mais il y a eu des rapports sur la protection de l'enfance, sur la prise en charge de l'enfance, etc. On ne peut plus, et on ne doit pas, en tout cas moralement, se cacher sur l'excuse des moyens. Oui, on n'a pas les moyens, c'est vrai, mais ça suffit pas. C'est pas une réponse que l'on peut entendre. Et il va falloir que on fasse notre révolution et qu'on s'organise avec les moyens que l'on a pour faire en sorte que ces choses n'arrivent plus. Nous avons dans cette commission d'enquête sur l'inceste entendu toute la difficulté de ces toutes petites victimes à dénoncer les faits et sur la crédibilité qu'on apporte.
Mais je vous arrête un instant parce que Béatrice Brugère, ça, on l'a beaucoup dit.
Exactement.
Et on l'a dit par le passé. Là, je vous redonnais cet exemple. Il y a la parole, il y a
justement
les actes, il y a l'examen médical, il y a la preuve, j'allais dire matérielle, tangible. Que fallait-il de plus? C'est-à-dire que on sait que la petite fille n'a pas menti. On sait qu'elle a été victime de viol. Des médecins en attestent. Ça, c'est le 11 septembre dernier.
Bien sûr.
Et alors qu'elle a 10 ans, alors que l'homme en question est au contact de petite fille toute la journée, qu'il est lui-même père de deux filles, la police ne vient pas frapper à sa porte.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une double enquête, il y a une double inspection qui va déterminer exactement, parce que c'est son rôle, s'il y a eu des failles individuelles sur le comment ça s'est passé et s'il y a des responsabilités qui devront être tirées de ces failles. Ça appartient aux deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, dont j'ai cru comprendre qu'ils seraient initiés ce matin pour une réunion.
10h30 aujourd'hui à
Matignon. En l'état, ce que l'on peut dire de façon plus générale, c'est que je crois qu'on n'est pas organisé comme il le faut. Et ça, c'est très important. Ce que je vais vous dire, c'est que nous avons de plus en plus de profils à risque comme ces personnes. On voit de plus en plus, d'ailleurs, d'affaires d'agressions sexuelles sur des mineurs. Les chiffres sont assez effarants, et ça, c'est la commission d'enquête aussi qui l'a révélé. Qu'est-ce que l'on doit faire à partir de là? On va pas continuer, comme vous le dites très justement, à dire les choses, à les constater, à ne rien faire et à rester les bras croisés. Il y a des modes d'organisation qui sont plus performants que d'autres. Je pense par exemple à ce qui se passe en Angleterre. Ils ont des modes d'organisation, ça s'appelle le MAPA d'ailleurs, c'est assez intéressant, où ils sont en capacité de faire un partage d'informations sur des acteurs pluridisciplinaires, services sociaux, psychiatrie, justice,
là il y a l'établissement scolaire qui signale, il y a l'aide sociale à l'enfance qu'on a tiré, il y a une plainte.
Sauf qu'en France, personne ne se parle. Et il n'y a pas de stratégie opérationnelle pour préserver justement, de façon aussi organisée que ce qui se passe en Angleterre. On doit absolument monter en puissance sur nos organisations. C'est vraiment une réalité. Sur la prise en charge des signaux d'alerte, sur le partage d'informations, pour pouvoir justement évaluer ces profils à risque et prendre des mesures de prévention.
Ça, Béatrice Brugère,
ça ne se fait pas.
Brugère, lorsque l'on voit effectivement cet enchaînement, j'ai reçu, et c'était quasi prémonitoire, mardi matin, la maman d'Elias. Elias, c'est ce garçon de 14 ans qui a été tué à la machette par deux jeunes hommes, mineurs eux aussi, déjà connus, déjà condamnés, mais dans une sorte d'à peu près de faille, d'enchaînement de failles et d'imprécisions qui, finalement, jour après jour, ont échappé alors qu'il y avait des signalements, alors qu'il y avait des condamnations, véritablement à la condamnation ou à la sanction. Est-ce qu'on n'est pas dans cette France de l'à peu près?
En tout cas, ce qui est sûr,
les choses sont bricolées, où on se dit bah ça va tenir, et puis finalement ça tient pas.
Ce qui est sûr, c'est que comme on est, et ça c'est une réalité, hein, cet objectif, c'est objectivé, sur une surcharge de procédure, on est sur une culture, un peu malgré nous, du classement un peu trop facile, je vous l'accorde, et ça ne va pas. Si on a des signaux d'alerte comme ça sur des profils qui sont sériels, puisqu'on voit très bien qu'il y a eu plein de faits, il faut qu'on ait des capacités d'alerte extrêmement sérieuses, vous avez raison, on ne peut pas être dans l'à peu près. Il faut que tous ces signaux d'alerte soient répertoriés. C'est pour ça que je vous parlais de systèmes beaucoup plus performants comme en Irlande ou en Angleterre. Ils le font, pourquoi on ne le fait pas? Donc c'est possible d'avoir cette possibilité d'organiser de façon opérationnelle. Mais c'est parce qu'on le fait pas. En fait, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Je pense qu'on a des systèmes, on a des gens formidables. Et d'ailleurs, ça a été dit par le maire et il a raison de le dire parce que il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les gendarmes ont fait sans doute un travail exceptionnel, y compris pour retrouver le corps. Je crois qu'il faut, et ça c'est vrai, il l'a dit, au niveau de l'État, que chacun prenne ses responsabilités pour avoir des systèmes mieux organisés, plus performants. Par exemple,
Faut-il que les juges rendent compte? C'est-à-dire,
oui, mais bien sûr.
Qu'il y ait à un moment une forme de sanction.
Mais vous avez raison. Mais en fait, c'est une responsabilité collective. Tout le monde a une responsabilité dans ce système. L'État pour nous donner les moyens. L'État pour nous donner des organisations performantes et des outils performants. Les individus pour être au meilleur, de leurs compétences et de leurs missions, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est systémique. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir dire un tel n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais ça ne réglera pas les comptes, le problème, parce que demain, vous aurez une autre affaire. Donc en fait, il faut qu'on ait une réflexion d'envergure pour prendre maintenant, de façon sérieuse ces problématiques qui sont extrêmement graves, de mise en danger de la population et notamment de mineurs sur lesquels on a des signaux. On n'aurait pas de signaux, je vous tiendrai pas.
Parce qu'il y a une urgence plus spéciale
Mais surtout parce que c'est possible. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui le font, on peut faire mieux.
Merci beaucoup. Merci Béatrice Brugère d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Je rappelle le titre de votre livre. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes bien sur RMC, BFM TV. Dans un instant sur RMC, on poursuit notre exploration des États-Unis à l'heure du mondial. Nous serons avec l'envoyé spécial d'RMC à la frontière du Mexique avec des fans qui sont à fond derrière le Mexique. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. La Coupe du Monde, ça débute dans moins d'une semaine, mais ça a déjà commencé sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Dans ce studio, Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Dans un instant, vous allez nous donner le futur vainqueur de ce mondial. Enfin, quasi. Juste avant, on retrouve notre envoyé spécial aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Apolline Moulin.
Martin, vous êtes à la frontière mexicaine, dans la ville de Laredo. Vous voyez le Mexique en face de vous, presque par la fenêtre. Le Mexique, main dans la main avec les États-Unis pour co-organiser cette Coupe du Monde. Alors que, honnêtement, les relations entre ces deux pays sont glaciales, Martin.
Ouais, et le symbole de ce fossé entre les deux pays, c'est le Rio Grande, le fleuve qui sert de frontière ici, plusieurs dizaines de mètres de large entre le côté américain à Laredo ici et Nuevo Laredo juste en face de moi de l'autre côté de la rive côté mexicain. Fleuve sous surveillance, la police des frontières patrouille évidemment, les agents sont souvent jumelles à la main pour s'assurer que personne ne traverse illégalement, mais cette sécurité ne suffit plus à Donald Trump qui a relancé il y a quelques semaines l'idée de construire un mur entre les deux pays ici à Laredo le long du Rio Grande. Vous savez, c'était l'une de ses lubies lors de son premier mandat, l'un des projets phares de Donald Trump. Joe Biden avait mis en pause ce mur en 2020 lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Trump est de retour désormais et avec lui donc ce projet de mur ici à Laredo. L'annonce a été faite à moins d'un mois de la Coupe du Monde et elle est restée en travers de la gorge de Lisbeth. Elle est d'origine mexicaine et quand je l'ai rencontrée, elle s'apprêtait à retourner au Mexique à pied.
Ça siento que en lugar de...
Au lieu de nous rapprocher, ça nous divise. Je trouve ça mauvais, mais c'est le gouvernement américain qui décide. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Faut le respecter. Mais Donald Trump parle toujours mal des Mexicains. Ça a des conséquences pour nous. Cette personne a semé beaucoup de négativité chez les Américains. Ça me désole. D'autant que beaucoup de Mexicains ont de la famille ici. Ces murs ont séparé beaucoup de familles.
J'ai bien entendu, Martin, vous disiez qu'elle retournait au Mexique à pied. Ça se passe comment, le passage de la frontière?
Eh bien, il suffit de traverser un pont. Alors, un pont un peu spécial, un pont grillagé, très sécurisé. Évidemment, on ne traverse pas comme ça. Il y a des contrôles. Il faut avoir un titre de séjour pour entrer, par exemple, côté américain. Je le vois depuis ce matin ici. Des centaines, je pense même des milliers de personnes le traversent, ce pont chaque jour beaucoup de Mexicains qui vivent au Mexique, mais qui viennent travailler côté américain.
Donc ça promet pour la Coupe du Monde, ils vont supporter qui ?
Ben, je me demandais, moi, en arrivant, s'il allait y avoir un débat dans les rues de Laredo entre Mexicains et Américains. Non, il n'y en a pas. Tout le monde va porter le maillot du Mexique pendant cette Coupe du Monde. Dans les magasins de vêtements, il y a bien quelques tenues aux couleurs des États-Unis. Mais dans celui de Sonia, par exemple, ils ne se vendent pas ces maillots américains.
Les gens viennent surtout pour acheter des t-shirts du Mexique, les hauts, les pantalons, des casquettes aussi, mais surtout le t-shirt et le maillot bien sûr. Et tout ça uniquement aux couleurs du Mexique.
Parce que tous les habitants que j'ai rencontrés ici ont hâte que ça débute, cette Coupe du Monde, qu'ils soient fans de foot ou non, tout le monde va porter du vert d'ici la fin de semaine prochaine.
Honnêtement, je ne sais pas quand les matchs commencent, mais j'en entends parler. Et bien sûr que je vais participer et porter le maillot.
J'espère pouvoir aller voir un match ou deux. On va tous montrer nos couleurs. Nous, les Mexicains, on est des vrais supporters, on fait du bruit. Vous allez voir des maillots verts partout dans le Texas. On est à fond, ça va être génial.
Je vais voir ça côté mexicain, moi. Quand on gagne, tout le monde se rassemble pour fêter ça. L'ambiance est meilleure là-bas.
Un moyen aussi pour certains habitants, ils me l'ont dit, de montrer aux États-Unis et surtout à Donald Trump que le Mexique peut faire mieux que le voisin américain.
Merci beaucoup Martin, toute la semaine vous nous avez raconté l'Amérique de Donald Trump juste avant la Coupe du Monde. Merci à vous, retour en studio.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, vous êtes toujours avec nous. Ce matin, on va commencer par un pronostic.
Et un scoop qui ne va pas plaire aux supporters des Bleus. On apprend dans le journal allemand Der Spiegel qu'un économiste allemand a prédit la victoire d'une autre sélection que la France le 19 juillet prochain.
Tu bluffes, Martini.
Eh bien, apparemment non. Selon lui, les Pays-Bas, triple finalistes, deviendront champions du monde face au Portugal. Un résultat obtenu en associant plusieurs critères, parmi lesquels prospérité, population, infrastructure sportive, place du football dans la société et classement FIFA dans lequel on retrouve les oranges au 8e rang. Ainsi, les Néerlandais et leur hymne Wilhelmus van Nassauwe seraient sur le toit du monde pour la première fois de leur histoire. Une méthode un peu plus fiable que celle de Paul Le Poulpe, puisque l'économiste avait annoncé les succès de l'Allemagne en 2014, de la France en 2018 et de l'Argentine en 2022.
Bon, très mauvais présage en effet. La France dans tout ça alors ?
Alors, Apolline, eh bien, selon l'économiste, le parcours des Bleus s'arrêtera en quart, éliminé par les Pays-Bas, justement, quand le Brésil sera sorti par le Japon dès les huitièmes.
Dites-moi pas que c'est pas vrai !
Si, je vous assure, des conclusions à prendre avec des pincettes cependant, l'économiste estime qu'il y a une grande part de chance, et les parieurs qui souhaiteraient suivre ces conclusions sont donc prévenus.
Et justement, Antoine, en parlant des paris sportifs, les sociétés spécialisées s'attendent à un véritable raz-de-marée durant le mondial.
Selon le Parisien, un cabinet de conseil a estimé à plus de 50 milliards d'euros les mises attendues dans le monde entier. Une hausse de 71% par rapport à l'édition 2022. En France, la barre record du milliard d'euros devrait être franchie selon l'autorité nationale des jeux qui va lancer une vaste campagne de sensibilisation destinée aux parieurs. Chiffre énorme qui s'explique aussi par le nombre de matchs disputés. 105 en 2026 contre 64 il y a 4 ans. Le tournoi étant passé de 32 à 48 équipes.
Les sites de paris en ligne vont faire le plein. Les diffuseurs également.
Et pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde, de la publicité sera diffusée en plein match pendant la pause fraîcheur à la moitié de chaque période afin de lutter contre les fortes chaleurs. 3 minutes qui valent une fortune puisque les spectateurs restent plus facilement devant leur poste. Selon les offres commerciales de la régie publicitaire de M6, il en coûtera jusqu'à 425 000 euros les 20 secondes en cas de présence des Bleus en finale. La chaîne qui a cependant décidé de se limiter à une seule minute de pub dans cette fenêtre devrait donc amasser près d'1 300 000 euros par pause fraîcheur en finale. Bon, si le prono de notre économiste allemand ne se réalise pas.
C'est évidemment ça. Merci beaucoup. Merci Antoine Salva. La Coupe du Monde, c'est donc sur RMC, bien sûr, radio officielle. 40 personnes sur place aux États-Unis, au Mexique, au Canada, nos équipes et notamment 10 reporters sur le terrain. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain ?
Eh bien, puisque nous avons une avocate dans les grandes gueules, nous allons revenir sur les dysfonctionnements judiciaires qui, malheureusement, ont conduit à la mort de Liana et les réunions qu'il doit y avoir aujourd'hui au gouvernement. Est-ce qu'elles vont vraiment servir à quelque chose? À tout de suite avec les grandes gueules.